Chapitre 13. Elsa. L'autre jour, une voisine, sans doute bien intentionnée, quand on a besoin de le préciser, c'est mauvais signe, m'a demandé « Tu crois qu'il aimerait te voir effondrer ?» Cette injonction à aller bien coûte que coûte, à devoir vite tourner les pages encombrantes, ça m'emmerde prodigieusement. Sans doute parce que j'y suis perméable. Je me suis longtemps mis une pression colossale pour vivre dans la joie et la félicité, ou tout au moins m'en approcher le plus possible. J'ai longtemps tenu à laisser la tristesse à ma porte, comme une vieille amie dont je connaissais trop le pouvoir destructeur pour l'inviter à entrer. J'ai succombé à la tyrannie du bonheur. Les guides de développement personnel ont envahi mes étagères. Je me suis essayée à la méditation, à la sophrologie et au feng shui. J'ai accroché des citations positives sur mes murs, j'ai investi dans des diffuseurs d'huile essentielle et des bougies, j'étais prête à tout pour réussir ma vie. Parce que oui, à mes yeux, réussir sa vie consistait à être heureux. Tout le temps. Un jour, j'ai même affirmé très sérieusement, une journée sans rire est une journée perdue. Le bonheur était une sorte d'état permanent, exempté de toute émotion négative, de toute contrainte. Il fallait faire ce que l'on aime, être entouré de gens qu'on aime, ressentir uniquement des sentiments agréables. Ma vie était un épisode d'Hélène et les garçons. Ça m'a frappé quelques jours après la mort de mon père. Je me suis dit, il ne faut pas que je sombre. Je dois rester debout. Même brisée par l'une des pires épreuves, mon but ultime était d'aller mieux, tout de suite. Et pour la première fois, je n'ai pas réussi. C'est pas un scoop, hein, me direz-vous, puisque c'est précisément pour cette raison que je viens vous voir. Mais depuis que j'ai décidé de vous consulter, j'ai l'impression que ma peine est plus légitime. Je vais mal, et je m'en donne le droit. Je pleure à volonté, je me lamente sans vergogne, je parle de lui à tout le monde, tout le temps. Je regarde ses photos, j'écoute ses messages, je visite souvent le passé, je bois parfois un verre de trop, je suis désagréable avec mes proches. Je passe des jours sans croiser la lumière, et c'est ainsi. Il y a des tunnels inévitables. Pour la première fois, je ne cours pas dans tous les sens à la recherche de l'issue de secours. Et puis, il faut mal connaître mon père pour penser qu'il préférerait me voir continuer à vivre comme s'il n'avait pas disparu. Il avait de nombreuses qualités, mais il souffrait d'une faille narcissique qui lui rendait intolérable l'idée de ne pas être notre priorité. Les week-ends où nous étions chez lui, mon frère et moi n'aspirions qu'à nous vautrer sur le canapé pour regarder la télé ou à rejoindre nos copains en bas de l'immeuble. Mais à notre grand désarroi, notre père nous obligeait à jouer au rami, au yams, au baccalauréat, au monopoly, à tout plutôt que de le laisser seul. J'ai compris bien plus tard qu'il casait dans ces deux week-ends par mois l'absence des autres jours. Même adulte, quand j'ai eu mon appartement, s'il se passait plusieurs jours sans nouvelles de ma part, j'étais accueillie par sa voix chaleureuse et une remarque irrépressible. Je croyais que je n'avais plus de fille. J'ai continué à aller chez lui un week-end sur deux jusqu'à l'âge de 23 ans, alors même que je vivais en couple. Je me rends compte qu'il jouait sur la corde sensible, que c'était du chantage affectif, mais je ne lui en veux pas. J'aimais ces moments avec lui. Il me manque. Évidemment, il ne voudrait pas que je sois inconsolable. Mais si je pouvais continuer à le pleurer un peu, je suis sûre que ça ne lui déplairait pas. Il avait la main verte. Ce n'était pas une qualité acquise à force de passion, mais l'inverse s'était produit. Quand il s'est aperçu que chez lui, les plantes s'épanouissaient, il s'est passionné. Il était l'arche de mes plantes moribondes. En quelques semaines, il leur redonnait vie. Je pouvais alors les récupérer pour les achever. Il louait un petit jardin communal car son appartement ne lui permettait pas d'assouvir sa passion. La plupart des autres locataires cultivaient des tomates, des fraises, des choux, des courges. Son jardin détonnait. Il aimait la couleur. Tout le monde s'arrêtait pour admirer l'explosion de fuchsia, d'hypomée, de roses, de rhododendrons, de clématites, de glaïeuls. Ces derniers avaient sa préférence. Il lui rappelait ma mère. Hier, c'était son anniversaire. Il aurait eu 70 ans. J'ai pleuré toute la matinée. Et puis mon frère et mes deux plus proches amis sont venus m'enlever chez moi. Ils ont gardé le secret tout le trajet. C'est une fois arrivé sur place qu'ils m'ont montré un dessin. Je l'ai reconnu tout de suite. un glaïeul violet que mon père avait planté juste à l'entrée de son jardin. « On va se le faire tatouer », ils m'ont dit. J'ai toujours eu une peur atroce des aiguilles. Je fais un malaise vagal à chaque prise de sang. Mais je les ai serrés dans mes bras. Mon frère m'a broyé les phalanges. Manu a fait la costaude, Sonia s'est endormie. Et moi, j'ai demandé au tatoueur si ça lui arrivait, à lui aussi, de savoir que le moment qu'il était en train de vivre était inoubliable. Je l'ai fait là, à l'arrière de l'avant-bras. Vous voulez le voir ?